Docteur Jones, je doute que vous ayez quoi que ce soit susceptible de me convenir.
Oh, quel joli caillou! Et comment on peut se passionner pour des morceaux de cailloux?
Mais ce ne sont pas de simples cailloux.
Quel genre de chantier sommes-nous?
Je suis sûr qu'il peut nous apprendre beaucoup de choses sur l'histoire de l'humanité.
Les pierres qui roulent.
Les pierres qui roulent.
Oui. C'est l'heure des pierres qui roulent sur Radio Campus Paris. 93.9.
Le Taurus Express quitte Alep à 22h40 et file droit à travers les plaines fertiles de Syrie. À 11h du matin, nous arrivons à Tel Kochek. De là, les automobiles affrétées par la compagnie de train permettent de rejoindre Mossoul en 2h30. Nous montons ensuite dans un train couchette de la compagnie irakienne qui nous mène à Bagdad. Le trajet dure 12 heures. Aussi appelée Cité de la Paix, Bagdad est une ville de contraste où s'entremêlent vestiges du début du Moyen-Âge et première modernité. Après un ravitaillement en produits frais, nous remontons en voiture. Aux environs de midi, nous nous arrêtons à Illa, point de départ pour visiter les ruines de Babylone qui se trouvent 3 miles plus loin. Après cela, nous atteindrons Basra à 7h30 du matin. Grâce au Taurus Express, en 1930, le trajet en train entre Londres et Basra nécessite approximativement 8 jours.
Alep, Homs, Dera, Palmyre, Hatra, Nimroud, Mossoul, Bagdad, ce sont des noms qu'on a beaucoup entendus dernièrement. Ceux des villes dont les habitants subissent les assauts des belligérants du conflit syrien et par extension irakien. Et ce sont aussi des sites archéologiques majeurs pour quiconque veut comprendre l'histoire de l'humanité.
Il y a encore à peine 70 ans, ces villes étaient accessibles directement depuis les grandes capitales européennes en quelques jours par train grâce au Taurus Express qui prenait le relais de l'Orient Express après Istanbul. Aujourd'hui, s'y rendre est formellement déconseillé par le ministère des Affaires étrangères français qui a recouvert la plus grande partie de la carte de la région d'un voile rouge dans la rubrique « Conseil aux voyageurs » consultable sur son site internet.
Derrière la tragédie humaine qui se déroule devant nos yeux, apparaît également par moments le terrible silence auquel sont contraintes toutes les activités de recherche dans cette région. Des sites inaccessibles, quand ils ne sont pas détruits, et des risques humains trop importants entravent considérablement la poursuite des recherches menées par des chercheurs travaillant depuis le monde entier.
Le patrimoine est un objet de guerre, il en est parfois un enjeu et fait souvent l'objet d'instrumentalisation. Son étude oblige donc à d'autant plus de vigilance et de questionnement lorsqu'elle concerne des patrimoines situés en zone conflictuelle. Aujourd'hui, dans Les Pierres qui Roulent, donc, on va parler de l'archéologie quand elle doit faire face au conflit. Et on est accompagné donc, de 3 doctorants aujourd'hui de l'association Les Routes de l'Orient, des étudiants et des doctorants en archéologie orientale. D'abord Jean-Jacques Herr, bonsoir.
Bonsoir.
Donc tu es doctorant à l'EPHE et ta thèse porte plus précisément sur les traditions de poterie et l'étude des productions dans ce qui est aujourd'hui le Kurdistan irakien et la Syrie. Donc tu nous en parleras pendant l'émission. Également avec nous Margot Sprut. Bonsoir Margot.
Bonsoir.
Tu vas toi nous emmener en Irak et en Iran car tu travailles sur l'image, les représentations des équidés au Proche-Orient au premier millénaire.
Exactement.
Et Tiffany Chica-Lefort qui est bonsoir. Également avec nous, qui fait sa thèse à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, sur le bois végétal au paléolithique dans la vallée du Jourdain, donc en Israël actuel. Et tu es également responsable du pôle communication de l'association Route de l'Orient. Est-ce que du coup tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que cette association, c'est quoi, ça existe depuis quand et pourquoi?
Alors, donc les Routes de l'Orient existent depuis 2012. C'est une association étudiante donc à but non lucratif. Notre but était donc de promouvoir la recherche en archéologie orientale et nous ouvrons depuis peu à d'autres disciplines, bien sûr. Et aussi, voilà, de créer et de permettre aux étudiants de se retrouver dans un contexte associatif sympathique. Voilà. Donc, du coup, nous avons plusieurs activités.
Vous existez depuis quand, du coup ?
2012.
Ok. Et vous êtes combien ?
C'est une jeune association. On a calculé la dernière fois, on est cinquantaine.
Ouais, c'est bien, c'est une belle association. Bon, c'est chouette. Donc, du coup, là, c'est ça. Tous les trois, donc, vous travaillez sur des pays donc, sensibles, difficiles, voire impossibles à approcher, avec des différentes situations dans lesquelles se trouvent vos divers patrimoines. Pourquoi est-ce que chacun d'entre vous a voulu travailler sur le pays ou les pays sur lesquels il travaille ? Est-ce que, par exemple, ces pays étaient déjà en conflit ? Bon, on le sait, mais ou est-ce qu'ils sont devenus encore plus problématiques une fois que vous avez commencé à travailler dessus ?
Alors, pour ma part, donc je travaille en Israël. Ouais. J'ai choisi ce pays-là notamment à cause des collections. Donc, mm-hmm. C'est des collections de bois. C'est très rare d'en trouver en contexte archéologique et en contexte préhistorique d'autant plus. Donc voilà, là, j'avais accès à ces sites. Donc voilà, ça s'est fait assez facilement. Et le conflit, comme on le sait, n'a pas beaucoup changé depuis. Ouais. Donc j'étais bien consciente de ces problèmes à la base.
Margot ?
Moi, oui. Donc j'ai les pays sur lesquels je travaille, donc l'Irak et la Syrie, étaient déjà en conflit au moment où je me suis inscrite en doctorat. Lors de mon master, je travaillais uniquement sur l'Irak, enfin mm-hmm. plutôt la Mésopotamie, vraiment. Mm-hmm. Et pour le doctorat, j'ai aussi ajouté l'Iran, aussi parce que c'était un pays où on peut encore se déplacer, en fait. Et du coup, ça m'aidait un peu à développer mon projet de thèse, qui autrement était un peu
Et tu travailles
compliqué.
Notamment sur la région de Mossoul ?
Voilà, oui, je travaille sur des palais qui sont dans la région de Mossoul. Ouais. Et du coup, c'est assez compliqué pour moi parce que je ne peux pas y aller. Donc, j'ai pas...
Tu y travaillais avant que Mossoul
oui.
soit pris
non, non, non. par l'État c'était déjà, islamique. C'était déjà comme ça. Après, je travaille sur des collections qui sont conservées en Europe. Mm-hmm. Mais c'est vrai que pour avoir une meilleure idée de l'emplacement des œuvres, enfin des images dans le palais, c'est compliqué. Et donc, je travaille sur des plans, en fait. Je ne peux pas du tout travailler sur le site. Ouais. C'est très, très,
On
très,
y reviendra
très compliqué.
Après.
Quoi. Peut-être Jean-Jacques.
Ouais, Jean-Jacques.
Et pour ma part, je travaille donc dans la région de l'Irak, mm-hmm. dans le pays irakien, et dans la partie plus précise du Kurdistan irakien, ouais. qui se trouve au nord-est de l'Irak.
D'accord.
Et je travaille également sur des collections et des travaux qui ont été faits en Syrie, dans la région du Moyen Euphrate. L'Euphrate, c'est ce grand fleuve qui traverse, qui part de la Turquie et qui arrive, qui se jette ensuite dans le golfe Persique. Mm-hmm. Et donc je travaille sur ces deux espaces géographiques. Et ces deux états.
Alors mais pourquoi, je sais pas trop pourquoi comment alors, vos familles ont dû vous le demander,
alors,
mais pourquoi tu travailles là-dessus, pourquoi tu vas pas...
La réponse, elle est surtout d'ordre psychanalytique.
Ouais.
Je pense que là, il faut qu'on aille faire une grosse dose. Une
Moi,
grosse
j'ai travaillé sur le sacrifice humain, donc
voilà,
je
donc
peux
je pense
aller
que
loin aussi.
Ça, il y a des réponses à chercher. Non, plus spécifiquement, moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur des espaces politiques qui étaient assez larges, donc de type empire. Et puisqu'en général, on remonte à l'époque de l'empire néo-assyrien, donc entre le 9e et le 7e siècle avant, la même période que Margot étudie, on a un espace politique qui va de la mer Méditerranée jusqu'à l'Iran, au contrefort du Zagros, cette montagne qui sépare l'Irak et l'Iran. Et c'était extrêmement intéressant de travailler sur ce type d'État à une période aussi ancienne que le premier millénaire. Mmh. Et justement, vu que c'est un État assez large, ou du moins on a la présence de cet État dans plusieurs pays, ça évite de se focaliser sur un seul État, sachant que ces régions sont en général soumises à des conflits armés assez réguliers quand même. Quand il y en a un qui s'allume, l'autre s'éteint, et quand l'autre s'éteint, un autre s'allume. Donc il faut pouvoir savoir s'adapter et définir, et ça va rentrer aussi dans la constitution de sujets de recherche.
Exactement. Margot, Tiffany, vous avez...
Oui, moi j'avais aussi... pour moi, le fait que c'était des régions en conflit, c'était aussi important de continuer de travailler sur ces régions-là aussi à cause des conflits, parce que c'est pas parce qu'il y a des conflits qu'il faut abandonner ces civilisations-là, et elles ont encore des choses à nous apprendre et des choses à nous dire, et du coup, pour moi, c'était aussi un acte histoire de pas les abandonner, histoire de continuer vraiment à travailler, à étudier et à apprendre de tout ce qu'ils ont fait avant et tout ce qu'ils ont encore à nous apprendre de ces très vastes empires majeurs pour l'histoire du monde.
Léa, tu voulais poser une question ?
Oui, est-ce que c'est facile de convaincre un professeur, un jury qui donne les contrats, les contrats doctoraux de nous suivre en fait, quand on travaille sur des régions comme ça un petit peu compliquées ?
Et comment on convainc ?
Est-ce que ça vous sert ou ça vous dessert en fait, le fait d'aller fréquenter ces espaces-là ?
Je pense que c'est un peu les deux. Il y a différentes possibilités. Moi, c'est vrai que lorsque j'ai présenté les contrats doctoraux, on avait un peu axé mon projet de thèse sur les pays autour. Donc, comme vous disiez, Jean-Jacques, l'Empire néo-assyrien a conquis de vastes territoires. Et donc, on avait aussi un peu axé sur le fait que je pourrais me rendre en Turquie, en Arménie, en Iran,
ce qui sont des pays où on peut encore
aller. Et puis, par exemple, on a une autre collègue. Peut-être, Jean-Jacques, si tu veux présenter le cas de Mathilde.
Oui, oui, mais après elle, c'est très particulier, c'est alors, lié justement. Donc Mathilde Murat, qui est une des présidentes de l'association Route de l'Orient, qui elle, pour le coup, s'est spécialisée sur les pays en conflit. D'accord. sur les vestiges.
Donc elle a le nez dedans.
Donc elle, c'est, ouais, c'est son sujet de recherche.
Okay.
Et ce sujet de recherche est bien sûr né suite à, en étant confrontée justement à des vestiges de conflits récents. Mm-hmm. Et elle travaille au Kurdistan irakien, elle travaille en Afghanistan également. Et c'est tout. Et enfin c'est tout, c'est déjà beaucoup. Et elle s'est spécialisée principalement sur ce type de problématiques ouais. pour pouvoir ensuite essayer de créer une méthode pour pouvoir réappréhender justement ces sites archéologiques et les vestiges anciens.
Après et pendant le conflit.
Alors non, faut pas. Enfin après il y a des, faut pas non plus pousser. On travaille pas sous les balles. Enfin en ce qui nous concerne, aucun de nous travaille dans une zone à haut risque. Ouais. Et d'ailleurs, je voudrais juste revenir sur un point, souligner un point que tu as mentionné sur auparavant. Tu parlais d'un voile rouge donné par le ministère des Affaires étrangères sur l'Irak. Il n'y a que le Kurdistan irakien et le sud de l'Irak qui n'ont pas de voile rouge, qui ont un voile orange. Et c'est pourquoi c'est important, c'est extrêmement important pour nous, parce que cela va définir en fait les autorisations qu'on va avoir pour travailler dans ces pays, puisqu'on travaille avec, en collaboration et grâce au ministère des Affaires étrangères.
Qui ne donne aucune autorisation si...
Qui ne donne aucune autorisation si on se trouve dans un pays rouge.
Okay.
Après, il y a des cas spécifiques, comme par exemple le cas de Mathilde, de partir à Kaboul et de travailler avec des personnes extrêmement précises dans ces régions-là.
Et de manière aussi très vérifiée, c'est-à-dire que les personnes sont derrière vous à chaque fois pour vérifier effectivement ce que vous faites, que ce soit les institutions sur place ou les institutions françaises qui vous suivent. Tiffany, toi, du coup, comment tu as fait pour donner envie à tes professeurs de te suivre dans cette aventure ?
Alors, il faut savoir qu'Israël est très facile d'accès, il n'y a pas besoin de visa spécifique, il y a un visa touriste de 3 mois, donc voilà, l'accès est très facile, les institutions françaises sont très présentes en Israël. Mm-hmm. Donc, pour convaincre, voilà, mon laboratoire de recherche était déjà implanté en Israël, donc ça, pour le coup, moi, j'ai été vraiment facilitée de ce point de vue-là.
Ok. T'as une autre question ?
Non.
Bon, on va faire une petite pause. On est toujours sur Radio Campus Paris 93.9 avec l'association donc Les Routes de l'Orient. On fait une petite pause musicale et on vient juste après.
By order of the prophet.
shiry who should put out a bear. The jet pilot's tuned to the cockpit radio blare. Soon as the shiry gets out of their hair, the jet pilot's way.
The Casbah, donc les Clash, un titre de 1982 qu'on a choisi exprès parce que c'est une chanson qui a été enregistrée au début donc, de la guerre Iran-Irak en réaction donc, à l'interdiction d'écouter du rock en Iran prononcée par l'ayatollah Khomeini. Donc c'est un titre aussi qui veut vraiment dire rock de Casbah mais dans le sens musical et qui s'élève aussi contre la répression politique de manière pacifiste. Je note aussi au passage que c'est une œuvre qui a été réutilisée récemment par les soldats de l'armée américaine qui le marquait sur les bombes lorsqu'il les envoyait en Afghanistan et que ça a fait beaucoup de mal à cette chanson qui a été donc placée sur des listes rouges aux États-Unis et qui ne peut plus être trop diffusée aux États-Unis à cause de ça, alors qu'à la base le message n'était pas du tout le même. Voilà, donc on continue aujourd'hui avec les routes de l'Orient, on est toujours sur Radio Campus Paris et on parle de l'archéologie dans les pays en conflit avec nos trois intervenants qui travaillent tous les trois sur des lieux différents et sur des sources différentes également, qu'il s'agisse donc d'iconographie comme pour toi Margot ou de sites archéologiques comme pour vous Tiffany et Jean-Jacques. Comment fait-on Margot quand on n'a pas accès à ces sources, notamment aux bas-reliefs donc, que tu étudies pour ta thèse? Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton sujet, de ce dont tu as besoin et de ce que tu recherches comme type de source?
Oui, alors moi j'ai quand même accès à mes sources, hein, c'est-à-dire que je travaille donc sur la figure de l'équidé en fait dans les représentations et dans sa fonction diverses et variées, donc au Proche-Orient, premier millénaire avant notre ère. Et c'est vrai que j'ai la chance quand même de travailler sur des collections qui sont conservées en Europe, qui sont dues en fait aux fouilles qui ont été faites au 19e siècle, où on a tout ramené en Europe, donc entre Berlin, Londres et Paris. Et puis, je travaille évidemment aussi sur des œuvres qui sont encore conservées sur les sites, notamment en Iran, donc à Persépolis, où là, tout est sur place. Mmh. Et donc là, j'organise des voyages de missions de recherche là-bas, où il me faut un visa académique, je dois m'y rendre sur invitation des institutions muséales là-bas. Mmh. Et donc c'est pas forcément simple, c'est surtout un processus qui prend beaucoup de temps. Donc là, par exemple, on est au 1er décembre, ça fait un mois que j'ai lancé les démarches et je pars qu'au mois de mai. Donc c'est vraiment beaucoup de délais parce qu'il faut avoir les invitations, lancer le processus de visa, etc. Donc c'est vrai que c'est assez long. Et puis pour ce qui est de la région vraiment de l'Irak, évidemment, je n'ai pas accès aux collections qui sont au musée de Bagdad.
Bien sûr.
Et puis, je n'ai pas non plus accès au site en lui-même, donc au reste des palais, puisqu'ils sont dans la région de Mossoul et accessoirement, ils ont été aussi tout à fait détruits récemment par le groupe État islamique.
Donc pour aller au-delà de ce manque, comment est-ce que tu fais
Alors, je travaille sur les archives. Il y a beaucoup d'archives des premières époques, des premières fouilles, donc du 19e siècle. Ouais. On a beaucoup de plans, on a des relevés, on a des dessins, notamment de Gênes Flandin, etc. Donc, on travaille beaucoup sur ces sites, ces sources-là, avec toujours l'idée de faire très attention, puisque ce ne sont pas des sources de première main. C'est des relevés, c'est des dessins. Ça a été fait au 19e siècle, donc avec des techniques, un regard particulier, des techniques particulières. Donc il faut aussi réussir à faire un peu la part des choses entre ce qui est réel et ce qui est ajouté par les hommes, les Européens du 19e siècle. Quoi.
Oui. Léa.
Et toi, Tiffany, est-ce que tu as accès facilement à tes sources en Israël?
Alors oui, donc moi j'ai vraiment accès facilement. D'ailleurs, je fouille aussi sur les sites archéologiques qui font partie de mon corpus de thèse. Donc ça, c'est vraiment un accès facile. Je travaille avec des chercheurs israéliens, donc avec des personnes locales. J'ai besoin aussi d'invitations, par contre, pour rentrer en Israël, puisqu'on demande immédiatement la question qu'est-ce qu'on vient faire ici, où est-ce qu'on va aller. Donc voilà, j'ai les invitations, qui sont assez faciles à avoir au final, mais voilà. Et du coup, voilà, donc l'accès au site et après les collections de bois sont conservées dans les universités auxquelles j'ai effectivement accès assez facilement.
Et celles-ci, elles sont déplaçables ?
Et non, elles ne sont pas déplaçables. D'accord. Du coup, c'est pour ça que ça nécessite que je me rende à chaque fois en Israël pour étudier. Les bois ne sont pas du tout déplaçables, même des petits prélèvements, impossible de déplacer quoi que ce soit. Donc d'accord. Tout doit être fait
parce
sur
que tout
place.
Est très. Enfin, c'est organisé de manière très stricte et tu peux rien. Enfin, c'est
voilà,
le musée ou
la,
c'est
la
le...
politique israélienne est. Tout reste sur le territoire.
Ok. Et si tu fouillais dans un autre pays, est-ce que par exemple en Europe, tu serais confronté au même problème ou finalement, est-ce que c'est spécifique à Israël ou pas
Ou bah je sais pas trop. Je pense qu'il y a beaucoup de pays qui sont comme ça. Mais bon, en Europe, c'est possible peut-être de déplacer certains. Enfin, j'ai une amie par exemple qui travaille sur du bois au Québec et elle a la possibilité de transporter des bois par avion. Donc oui. Donc voilà, ça dépend. Mais là, en tout cas, c'est sûr qu'en Israël, ils sont très stricts là-dessus.
Et à part ces sources-là, il y a des travaux aussi antérieurs, j'imagine que vous avez l'une comme l'autre, et toi aussi Jean-Jacques, sur lesquels vous pouvez travailler, donc tu en as parlé du quart du 19e, toi c'est la même chose aussi Tiffany ? Tu as des choses sur lesquelles tu peux t'appuyer qui ont déjà été faites ?
Oui, il y a énormément de sources bibliographiques effectivement sur les sites auxquels je peux m'appuyer.
Qui sont là-bas ou ici ?
Qui sont là-bas ou ici, ça c'est, voilà, l'accès est bien.
Toi, Jean-Jacques, donc, tu travailles 4 mois par an, si j'ai bien compris, sur des sites archéologiques.
Oui, plus ou moins.
Plus ou moins. c'est des sites qui sont détruits ou qui sont encore accessibles ou qui sont... Comment est-ce que ça se présente quand tu arrives sur le terrain ?
Alors, le site principal où j'ai commencé mon expérience au Kurdistan irakien, c'est celui de Qas al-Shemamok, qui est fouillé
par... Je ne savais pas le prononcer, donc c'est très bien que tu le prononces à ma place.
Ça veut dire le château des Shemamok.
D'accord.
En fait, c'est un site qui est étudié par... Au début, qui a été étudié par l'université de Lyon 2, sous la direction de Olivier Rouault. Et puis ensuite, c'est Mme Mazetti Rouault, de l'École pratique des hautes études, qui est aussi ma directrice, qui est devenue la directrice du projet. Et ce site archéologique, en fait, on ne va pas dire abrité, mais disons qu'un des généraux de Saddam Hussein s'est installé dessus pendant le conflit des années 90. Et il a été lourdement bombardé par l'aviation américaine. Donc ça laisse quelques petites traces sur la surface du site. Alors comment se compose le site ? En fait, c'est une colline qui est artificielle, elle n'a rien de naturel. Mmh. C'est lié aux phases d'occupation des humains sur ce site durant des millénaires. Mmh. Qui a créé une butte d'à peu près 25 mètres de haut. Et sur cette butte, qui fait une dizaine d'hectares, on a des énormes cratères de bombes et tout un réseau de tranchées, puisque en fait on est dans une plaine alluviale. Et la plaine alluviale, en général, est assez plate, puisque le fleuve va construire et détruire du sédiment. Et donc ces points hauts permettent d'avoir une vue vraiment dégagée sur la région, et donc de voir venir l'ennemi. Le problème, c'est l'ennemi qui vient du dessus, donc avec des avions de chasse. Ouais, ouais. Et les bombes qui tombent dessus font après des cratères de... celui dans lequel j'ai travaillé pendant 4 ans faisait 15 mètres de diamètre.
Donc c'est ça en fait, le site sur lequel vous travaillez, c'est un cratère finalement.
Non, c'est pas un cratère. Il y a des zones très précises qui ont été... Et pourquoi très précises ? Parce qu'on a retrouvé... là, ça fait partie aussi de notre travail de documentation de chaque strate d'occupation. Ouais. On a retrouvé plus ou moins des plans dessinés sur des morceaux en plastique. Et un de ces plans, justement, montrait des zones où il y avait des bases de militaires. On a notamment retrouvé les latrines de ces militaires à l'endroit même où on a fouillé. Mmh. Et c'est des zones qui ont été justement ciblées. Alors on a quelques cratères, peut-être six cratères, mais le reste du site a été préservé.
Et vous les évitez ou vous les fouillez ces zones-là ?
Eh bien justement, c'est donc ces zones, avant toute chose, le site a été complètement nettoyé par, par le déminage, par les équipes de déminage irakiennes et kurdes, qui ont été formées par des Américains, des Européens. Des Européens aussi y sont passés. Donc on sait que pour le site, il n'y a pas de risque dans les zones où on travaille. Et c'est extrêmement important d'avoir toujours ce contact justement avec les autorités pour éviter des problèmes. Bien sûr, après, on va découvrir tous les réseaux de tranchées, les munitions et les cratères de bombes. Et les cratères de bombes, on pensait au début qu'ils avaient un avantage, c'est que justement, ça avait enlevé les 5 mètres des niveaux qui, nous, n'étaient pas notre but principal. Et pour pouvoir justement accéder à les niveaux plus anciens. Mais le problème, c'est qu'on s'est vite rendu compte que ces cratères-là ont complètement détruit ce qu'on appelle la stratigraphie. Et donc, ça en devient très difficile d'avoir une lecture très claire des restes de vestiges et de moellons de murs.
Et justement, tu parlais du travail de Mathilde Murat. Mathilde Murat, elle travaille particulièrement sur la gestion en fait, de ces cratères.
Tout à fait, ouais, sur les méthodes qu'on peut essayer d'appliquer. Premièrement, de documenter ces sites avant qu'on y retourne, puisqu'elle travaille avec des imageries satellitaires, prises par des satellites qui tournent autour de la planète. Et c'est son principal corpus documentaire. Et dans les zones où elle peut avoir accès, c'est-à-dire dans le Kurdistan irakien, et là en Afghanistan, dans certains espaces, certaines régions de l'Afghanistan, elle peut aller vérifier justement les signaux qu'elle a identifiés sur les cartes, et sur les photos aériennes, et voir si ça correspond justement à soit des trous de pillards, soit des cratères de bombes, soit toute autre perturbation.
Et tu parlais aussi des institutions locales, donc administratives avec lesquelles vous travaillez.
Oui, oui.
Vos équipes avec lesquelles vous travaillez sur place, c'est qui ?
Alors, c'est ça qui est justement... et là, je vais en même temps en profiter pour revenir aux premières questions, qui en fait une des motivations pour lesquelles, moi, en ce qui me concerne, je suis parti là-bas, c'est que c'est avant tout une expérience humaine, quand même. Et on travaille avec des gens qui ont une motivation incroyable. Pour le Kurdistan irakien, on part de rien. C'est-à-dire qu'on a des archéologues qui se sont formés soit dans les universités de Bagdad ou de Mossoul à l'époque, qui étaient des universités extrêmement compétentes avec des professeurs qui avaient été formés à des méthodes, à des bonnes méthodes de fouilles. Puis à cause de la guerre, évidemment, il y a eu toute une perte de connaissances. Et donc ces gens qui ont été formés ont ensuite, quand le Kurdistan a pu s'est constitué en 2005 et qu'il a été ensuite accessible à partir des années 2008-2010, ces personnes ont eu des responsabilités au sein de départements des antiquités.
D'accord.
Et ces gens vont gérer justement l'activité archéologique, leur propre activité archéologique, puisque ces gens-là savent fouiller et travaillent. Il y a une urbanisation galopante dans cette région, parce qu'il y a eu un boom économique justement en 2010. Et là, c'est retombé à cause justement du conflit avec Daesh. Et ces gens-là donc sont sans cesse sur le terrain, essayer de récolter du matériel, de relever des coupes. Et c'est nos principaux interlocuteurs. Et on travaille en très étroite collaboration avec ces personnes.
Margot, je voulais revenir sur ce que tu m'as dit sur le fait qu'il y ait des objets en Europe, justement, issus donc du passé de nos pays et de leur pays. Pour toi, donc, la question des restitutions, est-ce que ça implique aussi cette question-là ? C'est-à-dire le fait d'avoir des œuvres en Europe, disons, du fait de notre histoire. Je ne sais pas comment poser la question, mais... En soi, quand on demande de faire revenir dans un pays, par exemple en Iran, des bas-reliefs du Louvre, comment tu ressens cette chose-là vis-à-vis justement des problématiques de guerre qu'il peut y avoir sur place là-bas?
Ah oui, alors c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que à la fois c'est très bien que les œuvres soient aujourd'hui en Europe parce que quelque part ça les protège des conflits armés, notamment du musée de Bagdad. Enfin, le musée de Bagdad a été ravagé par les conflits armés et c'est très bien. Enfin, quelque part c'est très bien que ce soit en Europe, et en même temps c'est quand même une sorte de... Enfin, c'est le problème de tous les musées du monde, hein. C'est quand même un problème de spoliation au départ lors des fouilles du 19e siècle. Comment ?
De colonialisme.
Mais de spoliation massive des richesses d'un pays, des richesses culturelles d'un pays qu'on a ramenées en Europe de force parce que c'était comme ça historiquement. Mais ça, c'est lié à notre histoire et voilà. Mais
tous ces objets qu'on a connus, à qui vont-ils appartenir? Que vont-ils devenir? Ça, je n'en sais rien. Oui, l'harmonica, je vais jouer l'harmonica, mais ces outils pour quel jardin? Je n'en sais rien. Qui lira ces bouquins d'histoire, qui sourira dans son miroir? Et les habits, je n'en parle pas, qui portera ce blouson-là? Ce que je veux pas, c'est croiser quelqu'un qui l'a sur le dos. Je tuerai ce salaud, ou j'en sais rien. Les objets vivent plus longtemps, les objets vivent plus longtemps que les gens. Pas toujours évidemment, mais souvent les objets vivent plus longtemps que les gens. Peut-être pas la boîte d'allumettes, ni la cigarette. Sa fenêtre ils ouvriront, sa porte ils refermeront, puis un jour ils mourront, et ceux qui resteront revendront. Ça durera combien, je n'en sais rien. Les objets vivent plus longtemps, les objets vivent plus longtemps que les gens. Pas toujours évidemment, mais souvent les objets vivent plus longtemps que les gens.
On est toujours sur Radio Campus Paris 93.9 avec les doctorants en archéologie de l'association Les Routes de l'Orient et on parle d'archéologie pratiquée dans des pays en conflit. Et donc une fois que le conflit est terminé, que se passe-t-il? Quelles conséquences pour l'archéologie? On va écouter Manon qui va nous parler du cas du Cambodge.
Et si on s'éloignait un peu du Moyen-Orient pour rejoindre l'Asie du Sud-Est? Dans cette chronique, je vous propose de prendre votre sac à dos en direction du Cambodge pour une expédition au sein de la grande cité d'Angkor, construite à partir du 9e siècle et mystérieusement abandonnée au 15e siècle de notre ère. Nous venons de voir les enjeux d'une archéologie pratiquée dans un pays en conflit, en temps réel. Mais comment construire ou reconstruire une archéologie dans un pays qui a été ravagé par la guerre? Avant de s'aventurer entre ces ruines angkoriennes, il est important de rappeler le contexte difficile dans lequel se trouve le Cambodge actuellement. On a tendance à oublier ce pays, proche du Vietnam, qui a pourtant subi les lourdes conséquences d'une guerre civile entre 1967 et 1975. Lorsque j'ai voyagé au Cambodge l'année dernière, je me suis retrouvée face à un pays en reconstruction, à des individus qui ont vu, vécu la guerre, à une pauvreté sans nom, mais surtout à des mutilés de tout âge. En effet, entre les mines antipersonnelles posées par les Khmers Rouges et le régime de Pol Pot, les bombes à sous-munitions et les obus non explosés lancés par les armées américaines, il y a encore aujourd'hui une victime toutes les 90 minutes. Le déminage a été véritablement entamé en 1998. Je vous laisse donc imaginer à quel point marcher en territoire inconnu au Cambodge est dangereux. Aujourd'hui, une expédition archéologique n'a rien à voir avec des scènes de Tomb Raider parcourant une jungle dense. Elles sont notamment contrôlées et organisées par l'École française de l'Extrême-Orient et l'Institut national de recherche en archéologie préventive. On ne peut fouiller quelque part sans s'assurer du déminage de cette zone. Les Khmers Rouges ont bien abîmé quelques sites, notamment en Angkor Wat, où l'on observe encore quelques impacts de balles, conséquence d'un massacre de personnes qui ont tenté de s'y réfugier pendant la guerre. Il y a eu des destructions dans une volonté d'enlever certaines traces de l'histoire, mais les destructions de leur part s'arrêtent là. Sous l'ordre de Pol Pot, le site d'Angkor est fermé et réouvert en 1979 seulement. Ce qui a principalement détruit le site après la guerre, ce sont les nombreux pilleurs munis de burins et de camions qui sont venus saccager et dérober de nombreuses statues, mais également des bas-reliefs. Se balader dans la cité d'Angkor, c'est découvrir des vestiges chargés d'histoire, c'est découvrir des sculptures, des reliefs remplis de détails et témoignant d'une époque riche et mystérieuse, mais c'est aussi se retrouver face à énormément de pièces manquantes. Et pour la petite anecdote, André Malraux lui-même a tenté de piller le site avant la guerre en remplissant un camion de 600 kg de statuettes et bas-reliefs afin de rembourser ses dettes. Il a été rapidement arrêté et condamné à 3 ans de prison. Après la guerre, c'est dans une volonté de s'enrichir, de sortir de la pauvreté qu'ont lieu des pillages de masse. Des réseaux se mettent rapidement en place dans ce chaos pour alimenter le marché de l'art. En 1992, Christophe Potier, archéologue et architecte, rouvre le centre de recherche de l'école de l'Extrême-Orient, à Angkor, dans l'urgence de restaurer temples pillés et abîmés. Aujourd'hui, un grand travail de recherche est mis en place afin de retrouver tous ces objets disparus et vendus.
On en a retrouvé beaucoup dans les musées de New York, d'Allemagne, de France, mais encore beaucoup restent introuvables et des moyens modernes sont mis en place. Les archéologues s'appliquent à des recherches iconographiques, mais surtout à des reconstitutions virtuelles en 3D des sites pour déterminer quelles pièces ont disparu. En parallèle, il y a toute une recherche des réseaux et des chemins de ce trafic pour les anticiper au maximum et surtout y mettre fin. Les pièces volées sont loin d'être toutes restituées tant que subsistent encore ces réseaux qui se sont créés, développés et amplifiés après la guerre. Le site d'Angkor est extrêmement contrôlé aujourd'hui et il est très très difficile d'en faire sortir des pièces. Les lourdes peines juridiques permettent d'en décourager plus d'un. Angkor est LE site touristique qui permet au Cambodge de survivre économiquement. Les sites principaux sont donc très très bien entretenus. Certains panneaux indiquent que certaines zones ne sont pas encore déminées et qu'il faut donc éviter de s'y aventurer. L'UNESCO notamment permet la sauvegarde de ce site et condamne tout vandalisme et pillage. Il y a une sensibilisation faite auprès de la population locale elle-même afin de valoriser le site. Notamment en continuant d'y participer localement par des ventes de produits locaux ou des rituels dans les temples. Il y a également une unité de recherche sur le public qui a été créée par l'UNESCO très récemment afin d'évaluer les besoins, les attentes, les comportements des visiteurs et pouvoir ainsi plus facilement élaborer des lois ou sensibiliser sur des causes ou sites non connus. En 40 ans, on peut donc dire que malgré toutes les difficultés matérielles, sociales et politiques, l'archéologie du site continue d'avancer à grands pas. Il reste bien entendu tous ces espaces vides que l'on tente de combler, tous ces mystères que l'on tente de résoudre, mais pour avoir visité le site par moi-même, je peux vous l'assurer, cela n'a rien d'évanescent et l'on reste subjugué par sa beauté.
Merci beaucoup Manon pour ce voyage asiatique. Margot, Tiffany, Jean-Jacques, est-ce que la notion de pillage, par exemple, est-ce que vous y êtes confrontés, vous aussi, sur vos sites ?
Je vais plutôt laisser Jean-Jacques répondre, parce que pour ma part, je n'y suis absolument pas confrontée. Donc.
Alors, oui, évidemment, il y a des... Enfin, évidemment, tout dépend des espaces géographiques au sein de ces régions. En ce qui me concerne, pour le Kurdistan régional irakien, évidemment, les zones proches de certains autres pays qui ont l'habitude d'avoir des traditions de pillage, c'est-à-dire qu'il y a déjà des réseaux qui sont implantés, viennent passer la frontière et essayent d'acquérir des antiquités du patrimoine irakien et kurde. Après, il y a aussi un trafic qui se met en place au sein de certaines communautés. Nous, les lieux où nous travaillons, où j'ai eu la chance de travailler, j'en ai pas vu, j'ai pas fait face à ça. Mais je sais qu'il y en a qui y sont confrontés. Et notamment, par exemple, peut-être vous avez une question. Notamment, par exemple, sur il y a des pilleurs qui ont réussi à identifier des strates archéologiques qui peuvent leur amener du matériel et qui vont suivre ces strates. Parce qu'ils pensent bien que sous le niveau de galets qu'ils voient dans la coupe stratigraphique qui a été faite soit par une pelleteuse à côté d'un village, soit par l'érosion d'une rivière, va leur procurer justement des choses qu'ils pensent être liées soit à des tombes, parce que souvent sous ces niveaux de galets ils savent qu'ils ont des sols, du coup ils savent probablement que sous ces sols il y a des tombes, et que dans les tombes souvent il y a des dépôts qui ont été faits par les anciens. Et ça, c'est un vrai problème pour nous, oui.
Léa, tu avais une question. On distingue bien les trous qui sont issus des pillages et des trous qui sont dus aux bombes. C'est des choses qu'on identifie bien.
Alors, tout dépend à quelle échelle on le fait. À l'échelle humaine, oui, c'est possible de différencier. Bon, faut aussi avoir un œil aguerri à cela. Après, on le fait beaucoup, maintenant de plus en plus, à l'échelle satellitaire. Puisqu'il y a des zones qu'on peut pas nécessairement, auxquelles on ne peut pas accéder. Et même les zones où on y accède, en le faisant par une échelle plus lointaine, ça nous permet de regarder beaucoup plus de sites et d'observer beaucoup plus de sites. Et ça, c'est le travail de notre collègue Mathilde. Elle s'est vraiment spécialisée dans les différents signaux entre ce qui est un trou de renard, comme certains nomment, ou ce qui est vraiment un trou de pillard ou un trou de bombe. Il y a des conflits.
Et alors, Manon parlait dans sa chronique effectivement de la numérisation des archives possibles sur un site archéologique. Est-ce que toi, tu as été confronté à ça ? Est-ce que tu le pratiques ? Est-ce que
la numérisation des archives ?
Ouais.
Alors là, ça reprend ce que disait déjà Margot. Mm-hmm. C'est-à-dire que la discipline de l'archéologie a des méthodes très strictes qui sont l'enregistrement de données de terrain et de matériel. Donc ça va être évidemment numérisé puisqu'on utilise des appareils photo numériques. On va faire aussi des plans qu'on va également numériser, scanner. Tout ce qu'on écrit est également scanné, donc tout ça part en archive physique de papier, mais également en archive numérique. Et c'est justement grâce à ces archives et grâce au travail des archéologues que nous pouvons après réétudier justement tout ce matériel. Et il y a des projets qui se sont spécialisés uniquement dans la publication de travaux, par exemple, qui datent du début du XXe siècle. C'est notamment le cas avec ce qui nous concerne, Margot et moi, pour le premier millénaire, avec le Aschur Projekt, qui est un gros projet allemand du Forder Asiatische, donc du musée de Berlin, où là, ils travaillent sur de la documentation de fouilles qui date de 1903 à 1912.
Il y a eu un projet là récemment du ministère de la Culture pour justement mettre en valeur Palmyre, donc via une numérisation totale du site,
alors,
une
là, reconstruction. C'est, ouais.
Donc ça, c'est encore
là, ça fait appel à
des moyens différents, mais le rôle de la numérisation pour la sensibilisation au public aussi à ces problématiques. Lointaine. Margot, t'as
Oui, sur cette question, je voulais juste préciser que ce sont quand même des projets qui sont très lourds en termes de financement, etc. Du coup, c'est souvent organisé par des grosses institutions. Donc, Jean-Jacques, vous parlez du musée de Berlin. C'est également le cas pour le musée de Londres, du British Museum, où ils ont monté tout un projet de numérisation de la bibliothèque d'Assurbanipal, un roi néo-assyrien sur lequel, justement, on travaille. Et évidemment, c'est monté par des grosses institutions. Nous, ce qu'on peut faire à notre échelle, c'est beaucoup plus réduit, quand même.
Alors, l'archéologie après la guerre, c'est aussi en France, l'archéologie d'aujourd'hui. On va écouter une interview qu'on a faite avec Léa de Laurent Olivier, qui est conservateur au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye, qui a récemment écrit donc l'ouvrage « Nos ancêtres, les Germains » et qui nous parle d'archéologie sous l'occupation.
Le projet national-socialiste, c'est un projet révolutionnaire, dans le sens où ils ne veulent pas réformer le monde, ils veulent le changer, ils veulent le remplacer. Et l'archéologie, contrairement à la légende qui a été forgée après-guerre, c'est pas du tout un passe-temps sympathique, parce que c'est un intérêt idéologique majeur. Si vous enlevez la science au national-socialiste, ça n'est plus que des vociférations haineuses. En revanche, c'est très important de l'asseoir sur deux piliers, qui sont la biologie, l'infériorité raciale est démontrée par les biologistes, démontrée avec des guillemets dans la perspective de la science allemande, et donc ça doit aussi être démontré dans le passé. Si vraiment il y a une race supérieure biologiquement dotée d'aptitudes intellectuelles supérieures par rapport aux autres races, entre guillemets, ça doit se voir dans le passé. Et donc ça doit se voir dès le début des origines raciales de l'humanité, donc dès le paléolithique. Donc vous voyez, il y a une entreprise de réécriture. Les archéologues allemands qui interviennent en France occupée sont missionnés pour travailler sur des programmes de recherche dont l'objectif, dans les différentes champ chronologique, c'est de démontrer que la partie ouest de l'Europe a été colonisée, entre guillemets, ou civilisée, entre guillemets, par des peuples qui étaient d'origine raciale, ce qu'on appelait à l'époque indo-germanique. Dans les années 30 et le début des années 40, le milieu archéologique français, il est tout petit, à peine quelques centaines de personnes, beaucoup des amateurs, donc des gens qui n'ont pas eu une formation académique. Et puis, le milieu professionnel, c'est très peu de gens à l'université, à l'Institut de paléontologie humaine, à Saint-Germain, c'est moins d'une dizaines de personnes. Et en fait, face à eux, il y a une archéologie allemande qui est professionnalisée déjà depuis quelques temps, et puis surtout qui est complètement embrigadée du point de vue idéologique. Et en fait, dans la guerre que se livrent les archéologues de l'ASS et les archéologues du Parti national-socialiste, la France réussit à être une chasse gardée qui échappe à l'emprise de l'ASS en grande partie. Et la chasse gardée, c'est spécialement la Bretagne, parce que derrière ça, il y a le lien avec les nationalistes entre guillemets bretons. Carnac, Reinhardt, qui travaille pour Rosenberg, a déjà des contacts avec eux dès 1937. Il y a des contacts d'amitié depuis longtemps. Les fouilles qui sont organisées là-bas bénéficient de l'accueil de Jacques, qui est le conservateur du musée de Carnac. Et on a les rapports, nous. On voit qu'ils sont très bien accueillis. J'ai l'impression qu'ils sont totalement aveugles à ce qui se passe. Ils ne voient pas l'enjeu. Beaucoup ont pris ça comme une aubaine. On s'intéresse à leurs travaux. Des savants allemands s'intéressent à leurs travaux. Beaucoup n'ont pas vu l'arrière-plan idéologique. L'effraction qui est réussie par l'archéologie nationale socialiste, c'est de faire croire que les faits sont objectifs. C'est-à-dire, c'est leur grande force. Ils disent pas « nous croyons en la race supérieure et donc nous démontrons que ». En fait, ils sélectionnent à l'avance les sites qu'ils vont fouiller qui démontrent déjà ça. Donc si vous voulez, on crée un socle de faits. En plus, avec des fouilles qui scientifiquement sont des fouilles exemplaires, donc bien, bien mieux documentées que les fouilles du 19e. Donc la perversité du truc, c'est que ce socle de faits, de données, va constituer le fondement sur lequel va se développer l'archéologie d'après-guerre. Mais en fait, vous ne pouvez pas dire que les données ont été falsifiées. C'est absolument pas vrai. Vous pouvez pas dire que ça a été inventé. Et vous ne pouvez même pas dire, en lisant les comptes rendus de fouilles, que c'est un délire idéologique. Donc du coup, il y a quelque chose qui est extrêmement gênant pour nous autres archéologues, surtout en France où il y a une forte tradition positiviste, c'est que non, les faits ne sont pas objectifs. Hein. Le fait n'est pas neutre. Après-guerre, quand les archéologies vont se reconstituer, il va y avoir un tel déséquilibre entre l'archéologie française, qui embryonnaire en fait, et puis une archéologie allemande déjà professionnalisée, que l'influence va être très très forte sur la reconstruction de l'archéologie française. Aujourd'hui, on veut bien admettre que l'archéologie a été nazifiée, mais ce qui est beaucoup plus difficile à admettre chez nous, pour nous Français, c'est qu'elle a eu un impact, une influence méthodologique sur l'archéologie d'après-guerre, c'est-à-dire sur la proto-histoire des années 70-80, sur l'archéologie du haut Moyen-Âge de la même époque. Et pourtant, les signes qui montrent que du point de vue méthodologique, il y a une pénétration de l'archéologie allemande sont évidents. Ce qui ne veut pas dire, alors il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas, ce qui ne veut pas dire que l'archéologie d'après-guerre française, elle est nazie, mais elle est touchée par, comme Tchernobyl, par une contamination. On est contaminé par ça. L'idéologie, ce n'est pas le truc tordu qu'on fait dire aux choses. L'idéologie, c'est ce qui vous paraît aller de soi. Hein. Il va de soi, pour beaucoup de gens, que le mariage, un homme et une femme, par exemple, ça va de soi. Vous entendez dire que c'est naturel, que c'est ainsi. Ça, c'est l'idéologie pure, par exemple. L'archéologie est idéologique. Nous aussi, on fait une archéologie idéologique, en fait. Hein, quand vous manipulez des données archéologiques, vous manipulez des données explosives. C'est comme jouer avec de la nitroglycérine, c'est pas innocent. Je pense que c'est essentiel qu'on se pose la question que ces gens-là ne se sont pas posés. Ils se sont pas posés la question des conséquences de leurs actes. Ils se sont dit, moi je fais que de l'archéologie, je veux pas savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça, moi ce qui m'intéresse c'est... Après-guerre, ils ont dit, je n'ai fait que ça. Or non, ils n'avaient pas fait que ça. Vous savez, il y a cette fameuse devise des médecins qui est « ne pas nuire ». Je pense que ça devrait être aussi notre devise « ne pas nuire hein, » dans ce qu'on fait, que ce qu'on fait ne puisse jamais être utilisé comme une arme de destruction de l'autre.
Margot, Tiffany, Jean-Jacques, est-ce que vous êtes vous aussi confrontés à la récupération de certains de vos résultats ? Récupération par des États, par des mouvements, par des groupes, par des communautés ?
Je réponds, bon, je me lance. Alors tout d'abord, il y a, pour reprendre aussi ce qui a été dit dans la présentation, sur le volet idéologique, de toute façon, oui, effectivement, quand on fait de l'archéologie, il y a un volet idéologique obligatoire, même quand on fait de l'histoire. Pour reprendre certains propos, d'ailleurs je ne pourrais pas citer exactement, mais en France, avec la petite primaire qu'il y a eu dernièrement, on parlait d'un ancêtre gaulois, voilà, c'est aussi de l'idéologie. Et dans les pays, dans la région où je travaille, les Kurdes par exemple, dans leur mythe de fondation, se disent être les descendants des Mèdes. Donc les Mèdes, les fameux Mèdes sont ceux qui sont présentés notamment dans les guerres médiques entre les Perses et les Grecs. Seulement, c'est pas les bons Mèdes. Les Mèdes dont on parle, c'est ceux qui vivaient dans les montagnes, dans la région entre en Iran, entre l'Irak et l'Iran, dans la chaîne de montagnes du Zagros. Et dans cette région, lorsqu'on parle de la période du premier millénaire avant Jésus-Christ, qui est celle de l'Empire néo-assyrien, et qu'on mentionne des antiquités liées à l'Empire néo-assyrien, nos collaborateurs préfèrent qu'on parle de Mèdes, de vestiges Mèdes. Et c'est une vraie question, c'est même pour nous, il faut qu'on questionne le vocabulaire qu'on emploie, parce que oui, pourquoi parler nécessairement d'un peuple qu'on pense avoir été supérieur à d'autres, plutôt qu'un autre. Mais là, du coup, on l'utilise vraiment dans une dynamique nationaliste. C'est comme la nôtre en ce moment, on est sur des vrais replis, une vraie redéfinition de la nation. On renouvelle plus ou moins une idéologie qui existait déjà avant, et ça fait complètement partie de ça. Et nous, malheureusement, on est instrumentalisé et on va donner on va permettre d'objectiver justement ces vues,
et
malheureusement.
Comment on fait pour se prémunir justement de ces choses-là ? Est-ce qu'on redouble d'attention ? Comment est-ce qu'on fait pour pas plonger, pour pas se laisser entraîner là-dedans ?
Eh bien, on passe du temps comme ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est-à-dire qu'en expliquant que le premier millénaire avant Jésus-Christ a connu un espace politique important qui est celui de l'Empire néo-assyrien, c'est par l'éducation en fait, tout simplement.
C'est
la médiation, mais l'éducation. Les contacts permanents avec nos collègues archéologues, parce qu'eux aussi ont beaucoup de choses à nous dire, là pour ce qui me concerne les Kurdes et les Irakiens de Bagdad et ailleurs. Et donc c'est vraiment par le dialogue et par la discussion.
Justement, en termes de médiation et de vulgarisation aussi de vos recherches, un travail important que vous faites justement, c'est d'en parler une fois que vous êtes ici et de mettre en place, valoriser vos recherches là-bas. Merci. quelles sont, par exemple, les choses que vous faites ici? Vous, par exemple, vous avez participé récemment à des ateliers ou à des choses... Jean-Jacques.
Alors là, pour le coup, je vais tout de suite l'introduire, parce qu'il faut. On peut organiser des manifestations, notamment on organise un colloque international pour l'horizon 2017, fin 2017, où on aimerait réunir toute une série de scientifiques, de jeunes chercheurs, qui ont travaillé sur ces questions de faire de l'archéologie dans des pays en conflit, ou faire carrément de l'archéologie en conflit, puisque nos collègues syriens sont en train de la faire encore en ce moment même. Au moment où on parle, il y a des gens qui vraiment là se battent pour pouvoir récupérer des antiquités et continuer à documenter des espaces qui sont détruits par soit l'urbanisation, soit les destructions. Et c'est un colloque donc, que nous voulons absolument organiser avec plusieurs partenaires, qui soient des gens qui travaillent soit en archéologie, soit en histoire de l'art, dans la conservation, des historiens. Et des personnes qui travaillent en droit.
En octobre 2017, hein, c'est ça.
Et ce sera en octobre, novembre, la date a été déjà fixée, mais on peut encore négocier, on est toujours dans la négociation de toute façon. Voilà, ça c'est une des activités qu'on fait. Après,
et justement, pour plus de précision sur le colloque, vous pouvez trouver l'appel à communication sur le site de Route de l'Orient en ce moment. Et donc, on reçoit encore, on attend encore des communications. Donc, si certains de nos auditeurs sont intéressés, que ce soit en droit, en histoire de l'art, en archéologie, vous êtes les bienvenus. Et donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Route de l'Orient pour voir l'appel à communication.
Alors, l'année prochaine, c'est 2017, mais l'année d'encore après, c'est 2018. Et il se trouve qu'en 2018, ce sont les 20 ans de Radio Campus, qui a été créé en 1998. Et avec nous ce soir, on est avec Lola. Salut Lola.
Salut.
Qui s'occupe donc des archives cette année de Radio Campus Paris. Et donc un projet de recensement et d'identification des archives de Radio Campus Paris. Est-ce que tu peux un peu nous en parler?
Oui.
avec quel est ton travail du coup?
Avec Jonathan qui est en train de faire la réalisation.
Salut Jonathan.
Donc en fait ce projet a déjà été lancé avant mon arrivée, donc en septembre, courant de l'année dernière je crois. Et donc le but c'est que il y a quand même beaucoup d'archives au sein de la radio, mais qu'est-ce qu'on en fait?
C'est ça. C'est donc tu les recenses, là tu as déjà écouté pas mal de choses depuis
déjà écouté pas mal de choses, mais même pas un tiers de ce qu'il peut y avoir, quoi, je pense.
T'as deux ans en même temps.
Ouais, j'ai encore temps.
un an et des poussières, un an et demi.
Et donc non, ce qu'on fait, en gros, on recense déjà dans les locaux, sur les serveurs, les fichiers présents.
Ouais.
On va à la rencontre aussi des anciens salariés bénévoles qui peuvent avoir encore des archives chez eux. On récolte leurs témoignages aussi, ça nous permet de faire une arborescence un peu.
Ouais.
Et de restituer entre guillemets les différentes générations qu'il y a eu d'équipes depuis 98. Et après, on a également monté un atelier d'écoute.
Ouais.
Destiné aux bénévoles pour nous aider donc à identifier ce contenu-là. Mmh.
Donc t'es pas toute seule.
Donc heureusement. Et en fait cet atelier, ça nous a demandé aussi de penser une méthode et de façonner des outils pour pouvoir être efficace
dans la préparation et après dans la valorisation justement.
C'est ça. Et alors la valorisation, en fait, elle va se traduire sous la forme d'une base de données, une sorte de sonothèque. Mmh. Qui sera d'abord accessible aux bénévoles.
Et ensuite sur Internet.
Et ensuite, dans le cadre des 20 ans, on pense qu'une partie de cette sonothèque va être rendue publique par une sélection en fait, d'extraits comme ça.
Et t'en as des extraits ou pas?
Oui, alors on a fait un petit montage un peu de manière artisanale.
C'est parti.
Pour montrer un peu
on peut l'écouter,
ce qu'on peut trouver. Quoi.
C'est quoi ça, Christo?
Et c'est rendu au campus Paris.
Je répète, Christo, c'est quoi ça?
C'est la radio étudiante de Paris.
Mais il n'y en avait pas avant.
Mais non, il n'y en avait pas, on est les premiers.
Chers auditrices, chers auditeurs, rebonsoir. Qu'est-ce que je raconte?
Et bienvenue sur Radio Campus Paris pour la chronique foot.
Figurez-vous que ce cher Guillaume est en train de boire plein de bière et de s'enfiler plein de chips. Parce qu'il s'est rendu compte que quand même Marseille avait gagné.
Radio Campus Paris a bientôt 20 ans et replonge le nez dans ses archives.
Bonsoir pour un nouvel épisode de Bouy FM. Ce soir, nous avons changé d'équipe.
Je commence quand je veux.
Ok.
Voilà.
Bon, c'est chouette. Ouais. Donc ça, c'est la présentation de ce que...
Ouais, du projet. Ça, c'était pour faire la com, pour attirer les bénévoles à l'atelier.
Ouais.
Parce qu'on a quand même besoin d'aide. Quoi.
Et ça a marché?
Bah, pas trop, probablement.
Ouais, non, donc, pas sûr, ça va venir. Ça, ça a commencé il n'y a pas longtemps, pense. Depuis septembre.
Ouais, bah, ouais, puis l'atelier, ça fait quoi? Ça fait même pas une semaine qu'on l'a mis en place.
Et alors là, pourquoi on parle de ça aujourd'hui dans Les Pierres qui roulent, alors qu'on parle d'archéologie? Est-ce que toi, t'as un rapport particulier avec l'archéologie déjà?
Bah, je suis étudiante en archéologie.
Ah, incroyable.
Hier, j'avais cours d'archéologie du Proche-Orient, d'ailleurs.
Ah, génial.
À Paris, hein. Mais ouais, bah, le rapport avec l'archéologie, c'est qu'au final, bah, c'est une forme d'archéologie, quoi. Mm. C'est juste le terrain, c'est juste que c'est pas de la terre, que c'est des fichiers numériques, mm. informatiques. Mais en termes de procédés, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, c'est classé, recensé, enregistré, daté... Mm. Et ça demande de faire des comparaisons aussi, mmh. parce que j'ai pas mal de documents qui sont pas datés, que je peux pas identifier. Et donc ça, je le fais justement en allant récolter les témoignages des anciens. Mmh. Ça me permet comme ça de d'établir des chronologies et après...
Est-ce qu'ils t'ont appris des choses que tu ne savais pas ou que... des choses un peu particulières sur ce qui s'est passé à Radio Campus Paris
Ouais, mais c'est un peu tabou, je pense.
Non, c'est vrai. D'accord, ça parle donc d'alcool, de cul et autre chose dont il ne faudra pas parler aujourd'hui.
Ouais. Non, qu'est-ce que j'ai appris que c'était surtout un tremplin au final à Radio Campus.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes qui aujourd'hui travaillent soit chez France Culture, mm-hmm. chez France Inter, enfin voilà, qui ont des responsabilités assez, assez conséquentes.
Jonathan fait la moue. Bof.
Mais non. Et puis après, non, il y a beaucoup d'émotions aussi dans le témoignage des gens. Et ça sent que beaucoup gardent contact en fait avec Radio Campus, mmh. que ça a été des choses qui l'ont permis, de, même à titre personnel, de mettre en place beaucoup de projets, de s'épanouir. Quoi.
Ouais. Bah, du coup, on aura l'occasion pendant les prochaines sessions des Pierres qui roulent de t'accueillir à nouveau. Et l'idée, c'est de faire un compte rendu chaque mois, un peu, de ton avancée, de ce okay. que tu peux nous proposer, d'avoir des petits extraits. En sachant que le prochain extrait sera un extrait spécial Noël. Donc, il faudra nous concocter un petit truc spécial. Il y a eu 20 Noël. Donc, c'est l'occasion.
Je précise qu'en ce moment, on s'intéresse aux années 2000-2002.
Ah, merci Jonathan, très bien. Donc 2000-2002. Bah, déjà, je pense que 98, on pourra apporter des petits éléments. Il s'est passé des choses importantes en France en 98. Je ne pense pas du tout au football, mais un peu quand même. Donc voilà, on pourra apporter des éléments différents. On va conclure. Merci à nos trois intervenants d'être venus aujourd'hui.
Merci à vous.
C'est super sympa. On a appris pas mal de choses importantes, des choses qu'on entend dans des colloques aussi sur l'archéologie en conflit, l'archéologie face à la guerre, mais aussi des choses un peu différentes, propres à vos terrains, à chacun. Je rappelle donc votre conférence que vous organisez pour l'année prochaine, qui se tiendra le 19 et le 20 octobre pour l'instant. Oui. Et on verra selon ce qui va se passer. Et donc, allez voir sur le site... rdorient.hypothèse avec un s.org, là où on peut trouver donc cet appel à communication. Je rappelle donc qu'effectivement au musée du Quai Branly, il y a aussi une conférence qui se donnera le 3 février 2017 à 18h30 sur la naissance de l'Arabie Saoudite, donc il peut faire un lien avec des choses qu'on a dit aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup à tous et on se dit au mois prochain pour Noël. Papa was a rolling stone.